Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel Instant M.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous voulez me spoiler ?
Le spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Elle s'appelle Léna Situation. Quel drôle de nom, c'est celui de sa chaîne YouTube, 800 000 abonnés. 20 ans, une énergie du tonnerre, expression de vieux, comme diraient mes enfants, une énergie du tonnerre et un naturel déconcertant. Léna, pour la troisième année, a publié cet été son vlog d'août. Un vlog, un blog filmé, une vidéo par jour qui montre tout de son quotidien. Ses pensées captées à voix haute, ses petites culottes, son acné, ses meilleurs potes. Si vous avez plus de, allez, on va dire 25, 26, 27 ans, vous allez hurler tellement vous allez trouver ça affligeant. Et pourtant, garantie sur facture, ça finit par devenir addictif. Ça en dit tant et tant sur sa génération. Un feuilleton du réel qui prend la place de la télé-réalité.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Je déteste la radio. Je trouve pas que la radio, ça manque un peu d'image.
Ça, c'était du Léna Situation dans le texte. Ça va aller quand même, 20 minutes de micro, Léna, non, bonjour.
C'est bon, il y a des caméras.
Il y a des caméras partout, c'est ça, les nouveaux studios de radio. Et c'est même, génial. On peut vous suivre en direct sur franceinter.fr ou sur l'appli. Léna, vous avez 21 ans, vous êtes la bienvenue dans ce studio. Dans quelques minutes, on va parler de votre vlog du mois d'août. Parce que vous vous dites, c'est le Friends, finalement, des années 2010. Moi, je dis, c'est la télé-réalité des années presque 2020. On va en parler ensemble. Il y a Bruno Donnet qui est avec nous. Ça va, Bruno ?
Bonjour Sonia, ça va très bien.
Voilà. Alors, continuez à nous écrire, vous tous, à l'instantm@radiofrance.com. Léna, c'est très ringard ici, on utilise encore des adresses mail.
Oh là
cette
là.
Semaine, ouais, cette semaine, j'ai même lu l'un de vos messages dans la matinale de France Inter. Chaque vendredi, vous le savez, je vous offre un cadeau. Là, c'est un Fedo dans la collection Ina, la comédie française. Le premier mail arrivé a gagné. Alors, voici ma question. C'était une émission de chansons dans les années 80 à laquelle participait toute la bande du Club Dorothée. Je veux son titre.
Si je vous dis, j'ai descendu dans mon jardin, vous allez penser que je ne parle pas un très bon français. De nos jours, c'est vrai. Mais au XVIIIe siècle, c'est comme ça qu'on s'exprimait en vieux français.
Voilà, et puis c'est notre petit hommage à Ariane de quand j'étais petite. Comment s'appelait cette émission ? L'Instant M à radiofrance.com. Très sérieusement, mardi soir, Bruno, vous avez regardé l'interview de l'ancien ministre de l'écologie dans C'est à vous et vous en êtes arrivé à la conclusion suivante. François de Rugy a très mal lu John Austin.
Oui, John Austin, je ne sais pas si vous le connaissez, Sonia, c'est un philosophe anglais, grand spécialiste du langage, qui s'est rendu célèbre en mettant en évidence un concept épatant qu'il a baptisé la parole performative. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'utiliser les mots pour produire une action, ou si vous préférez, ça désigne le moment où dire, c'est faire. En d'autres termes, John Austin est celui qui a mis en évidence que, dans certaines circonstances, le simple fait de dire quelque chose pouvait suffire à produire l'action que l'on venait d'énoncer. Et pour se faire encore mieux comprendre, Austin prenait régulièrement l'exemple du mariage et de cet instant où, en prononçant la simple phrase « je vous déclare mari et femme », le maire fait immédiatement changer de statut ceux qui, une seconde plus tôt, n'étaient encore que des fiancés. Alors vous allez me dire, quel rapport avec François de Rugy ?
Oui, quel rapport avec François de Rugy ?
Eh bien, le rapport, Sonia, est simple. Depuis le début de l'affaire dans laquelle il est empêtré, à chaque fois que l'ancien président de l'Assemblée nationale vient s'expliquer à la télé, il utilise la parole comme si elle allait être performative. Il a commencé à le faire le 12 juillet dernier sur BFM TV en déclarant très solennellement
« Les dîners à l'Assemblée nationale étaient des dîners professionnels. »
Pensant qu'il suffirait de le dire pour que cela devienne un fait et que le public oublierait que les journalistes de Mediapart ont révélé que parmi ces fameux dîners figurait notamment un petit souper de Saint-Valentin, pas professionnel pour deux ronds, mais à 2000 euros du bout. Il a ensuite réitéré le 23 juillet, juste après la publication du rapport du secrétaire général de l'Assemblée nationale, c'était au 20h de France 2, où il a débuté son interview par ces mots.
Je me présente devant vous ce soir en homme blanchi. Blanchi de toutes les accusations qui ont été portées contre moi.
croyant qu'il suffirait de l'affirmer pour que cela devienne une vérité et que nous oublions que le rapporteur a tout de même noirci un long document dans lequel il lui reproche l'organisation de 3 dîners privés à 6 000 euros, la construction d'un dressing à 15 400 et le paiement de ses cotisations à Europe Écologie Les Verts. Avec ses frais de mandat de député, comprenez donc que tout ça a bien été financé aux frais du contribuable. Enfin, et parce que De Rugy y est allé crescendo ce mardi sur France 5, il a tapé comme un sourd sur Mediapart, affirmant tout d'abord que
les méthodes de Mediapart ne sont pas des méthodes de journalistes.
Première nouvelle. Et poursuivant, en glissant un petit distinguo hautement méprisant entre lui, le député, et eux, les journalistes.
Moi j'ai été élu député. J'ai été élu. La différence quand même, c'est que moi j'ai été élu. J'ai pas été embauché pour faire des articles et payer sans jamais rendre de compte.
Comme si le fait d'être élu dispensait de rendre des comptes et comme si les journalistes n'étaient pas soumis à la loi de 1881 qui encadre scrupuleusement l'insulte et la diffamation. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que François de Rugy a très mal lu John Austin et qu'est-ce qui fait qu'en dépit de tous ses efforts, sa parole n'est strictement jamais performative? Eh bien tout simplement parce que de Rugy a oublié un petit détail. Dans ses recherches, Austin a précisé une chose extrêmement importante. Pour qu'un discours devienne performatif, il faut que celui qui le prononce respecte ce que le philosophe appelle des conditions de félicité. C'est-à-dire qu'il faut que le locuteur ait une légitimité. Dans l'exemple du mariage, vous n'êtes marié que si c'est le maire qui parle. Si c'est un boulanger ou un journaliste, vous restez fiancé. Or, depuis que François de Rugy a pour principal fait d'armes politique d'avoir renié sa propre parole, son engagement à soutenir inconditionnellement le candidat vainqueur des primaires de la gauche, il n'a plus la moindre crédibilité, au moins en termes de parole. Eh oui, même en matière de rhétorique, Sonia, on ne peut pas se féliciter soi-même, c'est moche, mais c'est comme ça.
Merci Bruno Donnet. Et pour réécouter ce cours de philosophie anglaise, c'est sur franceinter.fr. Et bravo, bravo à Jérôme qui a reconnu la voix d'Ariane dans Discopus. Bah oui, c'est mon enfance.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Si vous arrivez à l'instant, bah déjà bonjour, bienvenue, Léna, enchantée. Peut-être que vous êtes arrivée cette année, entre-temps vous n'avez pas connu ce que c'était les vlogs d'août. C'est que tout simplement, il y a 3 ans, genre, je me suis lancé le défi de faire une vidéo par jour.
Elle est là, Léna. Elle est avec nous, Léna, situation invitée de l'Instant M. Une vidéo par jour, ça veut dire se filmer sans filtre. Et pourtant, elles sont très travaillées, vos vidéos. Elles sont mises en musique. Il y a un générique qu'on entend là. Elles sont montées. Vous faites tout, toute seule. Ça veut dire se montrer en culotte à la maison, dans le bazar qu'on a la flemme de ranger. Ça veut dire ça, par exemple, à ceux qui vous regardent quand on s'aime pas en se regardant dans le miroir le matin.
Je me trouve d'une laideur intense et intensifiée. C'est pas poli de vous accueillir en étant genre dans cet état-là, tu vois.
Et puis je suis moche.
Là on est dans du moins égale moins divisé par 8 fois x au carré. Il faut que je me transforme en bad bitch qui va affronter la vie et qui va lui défoncer sa race.
Vous vous trouvez débile à vous réécouter?
Ça me tue de rire parce qu'on vient d'avoir un passage avec une éloquence folle de monsieur et qui me...
Et oui, moi qui monsieur, arrive, c'était Bruno Donnet.
Bonjour, I'm a bad bitch, ça va pas. Donc, non, c'est très drôle le contraste. Mais oui, je montre tout, on a fait une vidéo par jour tout simplement parce que j'ai toujours été fan des youtubeurs qui faisaient des daily vlogs. C'était un peu le rendez-vous tous les soirs quand je rentrais des cours ou du taf. Et je me suis dit, mais pourquoi moi je le fais pas?
C'était tous les soirs quand vous rentriez des cours?
Ouais.
Ça c'est génial parce que justement on s'est posé la question, c'est-à-dire est-ce que ce travail que vous avez produit, le vlog d'août, est-ce que finalement ça remplace pas la télé-réalité de toute une génération? Parce que justement le pic des moments où on poste les vidéos sur YouTube, c'est 18h. Et 18h, c'est l'heure, alors pour la génération de Bruno et moi, c'était les feuilletons, c'était Beverly Hills, feuilleton américain, ou c'était Hélène et les garçons, feuilleton français. Sauf que la génération qui est venue après, elle a vu Secret Story, elle a vu Love Story, et ensuite la génération d'après, elle a vu Les Anges.
Ouais.
Donc c'est ça.
Bah, en fait, je crois que c'est ça. Moi, j'ai pris l'horaire 20h50, parce que je voulais faire comme les films sur TF1 quand j'étais petite, les dessins animés, le dimanche, c'était 20h50.
Donc vous torpillez la télé, ça reste votre référence?
Ça reste la référence, mais je regarde jamais la télé.
Ouais.
Bah, je comprends pas le concept, en fait.
si tu choisis pas ce que tu veux voir,
ouais.
Enfin, si tu veux regarder quelque chose, faut attendre que le feuilleton d'avant il se termine. Enfin, c'est fou cette histoire. Alors que sur YouTube, c'était vraiment la liberté pure et dure. T'as pas trois coupures pub dans un film d'une heure. Et au-delà de ça, c'était quelque chose qui est bien plus naturel et spontané. Parce que les débuts de la télé-réalité, c'était super fun.
Mm-hmm.
Parce que les candidats ne se rendaient pas encore compte de ce qu'ils pouvaient avoir après. Et maintenant, on sent que c'est scénarisé à fond et on perd le côté spontané. Et les gens jouent un peu au débile aussi parce qu'ils voient que ça marche, ça fait des audiences, t'as la prod qui joue ça. Donc moi je dirais que c'est un peu une télé-réalité parce que c'est vrai que je filme ma vie.
Alors, mais on par, exemple, côté, par exemple, tout va très vite dans votre vie, Léna, et tout est immédiatement retranscrit à partir du moment où ça se passe au mois d'août,
ouais,
dans ce vlog du mois d'août, y compris et ceci.
Aujourd'hui, mon chéri et moi, on s'est séparés. Alors, c'est une relation qui, comme vous le savez certainement, on n'a jamais mis en avant sur les réseaux sociaux parce que c'était pas notre truc tout simplement. Je montre beaucoup 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 de choses, mais il y a une toute petite partie de ma vie que je garde privée et ma relation amoureuse en faisait partie. Et après avoir bien réfléchi et on a parlé avec Guillaume, on s'est dit que je vais filmer tout le mois d'août et après on s'est dit bon vas-y on le dit une fois pour toutes, genre comme un pansement.
Moi, ce que je trouve joli là-dedans, c'est quand vous dites « après avoir longuement réfléchi », alors que le jour même, c'est déjà sur YouTube.
Non, ça s'est pas passé comme ça. C'est quand même, c'est une conversation qui avait un petit passé quand même, parce que c'est pas du jour au lendemain où on a fini une relation de 6 ans.
Ouais.
Il y a eu des discussions avant, etc. Du coup, c'est pas non plus quelque chose qui était « on se sépare, d'un coup, c'est bon, c'est fini ». Il y a eu de la réflexion et on s'était toujours dit si... si on se sépare, comme moi, ma vie, c'est vraiment les réseaux sociaux. Enfin, je passe une très, très, très grande partie.
Oui, oui.
Et les gens sont investis dans ce qui se passe dans ma vie privée.
Oui.
Même si c'est la seule chose que j'avais gardée privée, c'était ma relation.
Ouais.
J'affichais pas mon chéri. Ouais. Il y a beaucoup de youtubeuses qui l'ont fait. Moi, j'ai décidé de pas le faire. Tout simplement pour éviter justement ce genre de truc. Mais comme là, c'était le mois d'août, je me suis dit, écoute, tu vas encore filmer. T'as encore 35 vidéos à filmer et à monter tous les jours. Tu peux pas faire semblant d'aller bien, de sourire, etc. Alors qu'au final...
Semblant d'aller bien, c'est hyper intéressant parce qu'on en parle de plus en plus, Léna, du burn-out des youtubeurs. D'abord, vous le dites tout le temps dans ces vidéos du mois d'août. Une vidéo par jour, c'est beaucoup de travail. Vous, je rappelle que vous faites tout seul. Hein, toute seule. Et tout ça est très monté, très travaillé, etc.
Oui.
Vous n'avez pas d'agent, etc.
Non.
Donc, c'est beaucoup d'exposition.
Ouais.
C'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de travail de livrer tous les jours. C'est beaucoup de haters. Ça aussi, ça revient beaucoup.
Ouais.
C'est-à-dire des gens qui vous critiquent. C'est beaucoup d'angoisse. Et il y en a qui craquent.
Il y en a qui craquent et c'est tout à fait compréhensible parce que, en fait, c'est un métier où on n'a pas de... Personne nous a donné de code, personne nous a donné les règles et personne nous a dit « Ah bah tiens, tu reçois beaucoup de haine. Du coup, pour contrer la haine, il faut que tu fasses ça. » Non, on a tous... on vit tous les mêmes choses et on a chacun notre façon de les gérer. Et il y en a sur qui ça craque. Moi, à un moment, j'ai craqué et pendant tout un mois, j'avais fait aucune vidéo et tout parce que tout simplement, c'était une pression qui me blessait et qui me rendait vraiment malade. Et jusqu'au moment où j'ai décidé de faire uniquement ce qui me plaisait, puisque de base, YouTube, c'était ça. Avant que ce soit un métier, c'était vraiment un passe-temps après les cours, etc. Et à partir du moment où on garde ce sentiment de passe-temps, ça va mieux. Mais quand on voit la chose comme un vrai boulot, avec des horaires fixes, avec une pression, etc., et comme on est notre propre patron, la pression, elle est d'autant plus dure parce qu'on peut être très dur avec soi-même.
J'aimerais bien justement qu'on parle de ce rapport au travail. On sent que vous avez les pieds bien, bien sur terre. C'est-à-dire qu'il y a des très jeunes youtubeurs pour qui on s'inquiète. On se dit un jour ou l'autre, ils vont exploser en 1000 morceaux. Et puis vous, on vous sent quand même, on vous sent quand même assez bien posé parmi nous. On vous écoute parler justement de votre rapport au travail et du CDI.
Être youtubeur, c'est fun et tout, mais déjà que maintenant ça va durer, on sait pas. Surtout, tu sais, tu vas acheter un appartement par exemple, t'as un dossier, il est un peu bancal, genre t'as 20 piges, mais tu gagnes de l'argent. Tu sais, c'est encore nouveau dans la société. Mais moi, je comprends pas trop ce que je fais, voilà. Donc c'est difficile de l'expliquer à ma banquière. Et c'est pour ça que moi, je me sens en sécurité quand je suis dans un parcours un peu plus traditionnel. Et puis, tu sais, j'étais en école de com, et genre vraiment, pour nous, le mot magique, c'était CDI. Genre, on nous disait signer des CDI, signer le CDI.
Et j'ai signé le CDI du coup.
Ouais, vous avez signé le CDI avec une marque de vêtements qui s'appelle Jennifer. Et justement,
ouais,
vous avez installé tout un business, c'est-à-dire que vous créez des t-shirts, vous en parlez dans votre vlog.
Exactement.
Et après,
j'ai la double casquette en interne et d'ambassadrice également.
Exactement.
Je travaille beaucoup avec Jennifer.
Mais du coup, vous réfléchissez aussi à ce que c'est que ce statut de youtubeur. Est-ce que
oui,
c'est un
sûr.
Métier, pas un métier? Est-ce
Alors,
que
c'est totalement un métier.
Mm-hmm.
Même si pour beaucoup on fait pas grand chose, mais c'est un vrai métier de couteau suisse parce qu'on doit faire tellement, enfin on a tellement de compétences à acquérir quand on veut vraiment gérer la chose en entier. Déjà que ce soit se gérer professionnellement, ça doit être faire des factures, lire tous les mails, y répondre, gérer une social media, enfin genre gérer sa carrière sur les réseaux sociaux, créer une audience, faire le montage, apprendre à filmer, apprendre à faire des photos, faire les retouches, ouais, etc. Ouais. Ça, on ne nous l'a pas appris à l'école. Et moi, j'étais en école de commerce, on ne l'a pas appris non plus. Ouais. Et j'ai fait de la com, mais on ne m'a pas appris non plus à gérer ça.
Alors, ça marche, et vous le racontez à votre façon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui revient beaucoup dans vos vidéos, notamment de cet été, c'est... Ça, j'en rêve. Ça, c'est très beau. Je peux pas encore me l'offrir. Faut travailler dur pour pouvoir s'offrir ce dont on rêve. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une séquence que vous avez filmée avec votre papa qui devine le prix de vos affaires.
Ça m'a racheté. Une paire, ça t'a pas suffi. Ah, 700 euros.
850.
Hein? 850 euros.
Ouais.
Non.
Je te jure.
Mais elles sont chouettes aussi, hein. Faut pas cracher dans la soupe non plus. Elles sont belles.
Voilà, votre papa, il en revient pas qu'on puisse acheter des baskets à 850 euros. Moi non plus, je vais vous le dire, Léna, même si elles sont belles, c'est vrai. Comment réagit votre communauté face à une vidéo comme ça? Comment on fait pour rester une fille comme les autres, c'est-à-dire dans laquelle se reconnaissent les autres filles? C'est ce que les marques qui signent avec vous aiment, c'est ce que votre communauté aime. Les filles, elles se reconnaissent en vous, Léna. Et comment on fait pour vendre du rêve en même temps? Sans se couper de sa communauté.
Bah, ce qui est très drôle, c'est que cette paire de chaussures que j'avais achetée, je l'avais achetée avant même de gagner de l'argent avec YouTube.
D'accord.
C'est-à-dire que j'avais des petits boulots.
Ouais.
Et mes copines et moi, on avait une façon de dépenser nos sous qui était, on fait nos petits boulots, on économise et après on s'achète la paire qui nous fait kiffer, le sac qui nous fait kiffer. Parce que c'était notre plaisir à nous.
Ouais.
C'était soit ça, soit un voyage. C'était notre truc, c'est comme ça qu'on économisait. Et du coup, les gens l'ont pas mal pris ou quoi que ce soit, parce que c'est un argent... Enfin, j'ai travaillé pour l'avoir, et c'était mes petits boulots, etc. Et même aujourd'hui, je pense que ça a un peu inspiré les gens en se disant, bah, si je veux quelque chose, que ce soit une paire de chaussures ou un autre plaisir matériel ou pas matériel qui te fait kiffer, tu peux réussir à travailler pour pouvoir te l'offrir. Et je pense pas que c'était en mode, m'as-tu vu, regardez, j'ai des chaussures qui coûtent super cher. Là, c'est une vidéo qui était vraiment genre très légère.
Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que par exemple, au cours du mois d'août, vous partez à Mykonos avec une copine.
Ouais.
D'abord, vous arrivez à Mykonos, vous entrez dans le taxi. Alors, Mykonos, c'est une île en Grèce qui est très touristique. Et votre copine, elle vous dit, viens. On va plonger dans Instagram. J'ai trouvé ça génial.
C'est trop drôle.
Génial. Parce que, en effet, c'est une des destinations de voyage les plus Instagrammées. Ça veut dire les plus photographiées avec tous les codes esthétiques et les filtres que ça signifie et postées sur les réseaux sociaux. Et pour vous et votre copine, aller à Mykonos, c'est plonger dans Instagram.
Bah, c'était surtout un hôtel où on a été, c'est un hôtel qui a 2 millions d'abonnés sur Instagram.
C'est ça.
Et c'est
ça. Les filles, elles disent pas, c'est le plus bel hôtel de Mykonos. Elles vous disent, il a 1,3 million d'abonnés sur Instagram.
Et on trouvait ça fou qu'un hôtel ait autant d'abonnés. On est parti voir. On s'est fait kiffer et après on est rentré dans notre hôtel à nous qui était bien moins instagrammable mais qu'on préférait.
C'est ça. Vous partez aussi à Singapour durant ce mois d'août avec vos meilleurs copains. Alors vos meilleurs copains, c'est pas n'importe qui. C'est Bilal Hassani qui est une super star de YouTube.
Je l'adore.
Plus d'un million d'abonnés. Vous apparaissez très souvent dans ses vidéos à lui.
Ouais.
Il a été candidat représentant la France à l'Eurovision. Et puis c'est un autre garçon qui a aussi 19 ans qui s'appelle Spark Dice, que moi j'ai découvert à l'occasion, qui est à mourir de rire. Il fait des story time, c'est-à-dire qu'il raconte des témoignages de sa journée devant la caméra, sauf qu'il fait le story time de Jeanne d'Arc ou de Louis XVI avec une perruque, et c'est à mourir de rire. Et tous les trois, vous partez en voyage.
On était quatre.
Oui, il y en avait un quatrième, c'est vrai, vous partez. Et ce qui est formidable, c'est que du coup, les abonnés qui vous suivent comme des personnages, finalement. Parce que où est la frontière entre la fiction et la réalité? Vous êtes tous devenus des personnages qu'on suit au quotidien.
Mais ce qui est agréable, c'est qu'on est des personnages, mais sans créer un personnage. C'est-à-dire qu'on est chacun nous-mêmes et que les gens suivent les vlogs comme une série. Comme moi, je regarde Friends, j'ai pas l'impression non plus que c'est des personnages parce que
vous regardez Friends, c'est vieux.
Je suis obsédée.
C'est vrai.
J'en suis fan.
Mais c'est ma génération, ça.
Je sais.
Et vous les regardez sur quoi?
Sur Netflix.
Ah bah oui, c'est ça.
Non, dire sur la télévision. Quand même pas. Non, sur Netflix. Ils ont racheté tous les épisodes. Du coup, moi, j'ai regardé les 10 saisons. J'ai pleuré à la fin et tout. Non, je suis
obsédée. Et donc, avec Bilal et Spark Dice, vous êtes un peu comme, je sais pas, moi, Chandler, Monica.
Et non, mais on joue à ça. Moi, je suis Rachel. Bilal, c'est Monica. Sullivan, c'est Chandler.
C'est ça.
Et j'ai mes amis aussi qui sont même pas sur YouTube. Ma meilleure amie Solène, qui est vraiment un des personnages préférés des vlogs d'août, par exemple, c'est ma meilleure amie, elle n'est pas sur YouTube, mais les gens aussi suivent ses aventures et tout, parce que c'est, on s'attache aux gens qui m'entourent, quoi.
Merci beaucoup, Léna Situation, d'être venue dans cet endroit un peu bizarre, la radio, où finalement, les caméras ont fini par rentrer dans les
c'est
studios.
C'est comme une vidéo YouTube,
voilà,
en fait.
C'était Léna Situation au micro de l'Instant M. Merci à toute mon équipe, Anne-Cécile Perrin, Redouane Tella, Marion Philippe et Nicolas Cazot, qui était à la technique ce matin. Bonjour, Ali Rebéi.
Bonjour, Sainte de Villers. Elle est bien, cette jeune fille qui aime France. C'est formidable. Que faire de nos émotions? Exprimez-vous facilement vos émotions. Quelles sont celles qui vous ont construites? Vous ont-elles parfois joué des tours dans votre vie? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 ouais. 7000.
Et vous devriez inviter Bilal et Léna parce que leurs émotions, ils les mettent en scène tous les jours sur YouTube.